nous regardons à quoi ressemblent les projets de paix et non de malheur que Dieu a pour son peuple. Selon le prophète Jérémie, je connais des projets que j'ai formés sur vous, un projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Et nous avons vu ces projets de paix dans l'histoire d'Esther, le livre d'Esther que nous avons étudié récemment. Nous avons vu que ces projets de paix, parfois c'était des projets surprenants, Dieu pouvait rester assez caché, agir par une main invisible, alors que le peuple était loin du temple, était en exil, et bien Dieu était quand même là pour accomplir ses projets de paix. Mais maintenant nous proposons de regarder une autre histoire, l'histoire d'Esdras. Esdras, c'est une histoire qui se déroule à la même époque, même Esdras c'est certainement un peu avant Esther. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le Dieu silencieux, le Dieu invisible, c'est le Dieu qui agit avec une main visible. Maintenant, c'est le retour vers le pays, fini l'exil, et c'est aussi des projets de paix merveilleux que nous pouvons étudier. Alors, je vous invite à chercher le livre d'Esdras dans la Bible. À l'origine, Esdras et Néhémie ne font qu'un seul livre. C'est nous qui l'avons découpé, Esdras et puis Néhémie. Dans le livre d'Esdras, on trouve le récit de la reconstruction du temple. Le temple qui avait été rasé par les Babyloniens. L'histoire d'Esdras, c'est l'histoire de la reconstruction du temple. Et puis dans le livre de Néhémie, c'est l'histoire de la reconstruction de la ville de Jérusalem, notamment les murs. Reconstruction du temple, c'était la priorité. Ensuite, reconstruction de la ville. Ça, c'est Esdras et Néhémie. Mais en réalité, l'histoire d'Esdras et de Néhémie, c'est l'histoire de la reconstruction du peuple, de leur foi, de leur culte, de leur identité. Ils avaient subi plein d'influences qui auraient pu étouffer leur foi, les assimiler aux nations païennes, leur faire oublier leur héritage. Alors c'est Dieu qui va entreprendre un projet de reconstruction, de rebâtir son peuple, et ça c'est un beau projet. Et pour nous aussi, c'est la seule promesse que nous avons vraiment garantie, c'est que Christ bâtit son Église. C'est sûr que devant nous, nous avons des projets de déménagement et de construction. Mais ce que nous ne voulons surtout pas faire, c'est bâtir des murs et détruire l'Église. Ce serait affreux. Nous voulons surtout que Dieu nous bâtit notre foi, notre culte, notre adoration, notre obéissance. Alors, le livre d'Esdras pourrait nous aider, nous inspirer, je pense, dans cette année à venir. Quand je lis un livre, un roman, j'aime bien quand sur la première page, il y a une liste de personnages. Ça m'aide à me repérer quand je les rencontre dans l'histoire. Alors, avant de lire notre texte, je vais vous donner une liste de personnages clés dans ces histoires. Ça va nous aider à mieux suivre. Donc d'abord, vous avez Zorobabel. Mes parents ont failli m'appeler Zorobabel. Ils ont opté pour Samuel. Mais donc, je prête attention quand il s'agit de Zorobabel. C'était le petit-fils du dernier roi de Juda. Et c'est lui qui va être le chef de la première équipe à rentrer dans le pays. Zorobabel, et puis à côté de lui, Josué, souvent un sacrificateur, et puis avec eux, Zaché et Agé, que vous connaissez, c'est des prophètes. Donc là, vous avez le roi, le sacrificateur et les prophètes, une équipe qui dirigeait le peuple à ce moment. Et puis, il y a une deuxième vague de retour dirigée par Esdras. Mais c'est bien plus tard, c'est presque un siècle plus tard. Donc aujourd'hui, on ne va pas rencontrer vraiment Esdras, même si nous allons étudier son livre. Et puis, troisième vague de retour conduite par Néhémie. Néhémie, dont le livre porte son nom. Donc c'est le chef de la troisième équipe. Et bien, pendant tout ce temps, vous avez les rois perses qui se succèdent, Cyrus, Darius et Artaxerxès, que nous avons déjà rencontrés avec Esther. Donc voilà, ça vous permet de connaître les personnages de l'histoire. On ne va pas tous les rencontrer ce matin, mais on peut se situer ainsi. Donc je vous invite à lire avec moi Esdras chapitre 1 et quelques extraits du chapitre 2. Esdras chapitre 1 et aussi dans le chapitre 2. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, d'or, des effets, de bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Midredat, le trésorier, qui les remit à Sheshbatzar, prince de Juda. En voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, c'est pas le même, c'est un autre, Néhémie, Seraja, Réelaja, Mardoché, Bidchan, Mispar, Bigvaï, Rum, Bana. Après suit plein de listes de noms et de nombres que nous allons sauter, pardonnez-moi, et on va reprendre la lecture en 59. Voici ceux qui partirent de Tel Melak, de Tel Asha, de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekuda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Alors on les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses, il y avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin que l'on rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 dariques d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs, les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Voilà, ici, nous avons un vrai cas de réveil. Un réveil. C'est un peu le mot-clé de ce chapitre, je crois. Ça commence ainsi dans verset 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et encore verset 5. Les chefs de famille de Juda, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour bâtir la maison de l'Éternel. Beaucoup de choses ont été dites au sujet du réveil. C'est un sujet qui a souvent intéressé les chrétiens. Mais ici, nous avons un vrai cas, un véritable cas de réveil. Et c'est quelque chose de merveilleux de c'est quelque chose de merveilleux d'observer. C'est encore plus merveilleux de pouvoir y participer hein, quand Dieu réveille son peuple, quand il est réveillé à s'engager pleinement, à marcher dans ses voies, à lui obéir. Alors on va parler du réveil ce matin, ce réveil et retour qu'a connu le peuple juif au moment d'Esdras et de Néhémie. On va parler du réveil ce matin, on va voir tout d'abord que ça arrive, oui ça arrive. Ensuite, comment ça arrive et enfin... ce qui arrive, plus précisément, ce qui arrive dans un réveil. Donc, les réveils, ça arrive, oui. Ensuite, comment ça arrive? Et enfin, ce qui se passe, ce qui arrive dans un réveil. Commençons à ce premier point, en parlant tout simplement de la réalité des réveils dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Parfois, quand on me parle de réveil, je suis un peu suspect parce qu'on a pu le définir de toutes sortes de manières. Peut-être aussi en France, on n'est pas très habitué. Il y a un certain pessimisme qui s'installe. Alors, mais nous voulons ce matin affirmer que c'est une réalité dans la Bible, cette notion de réveil. Ça arrive dans l'Ancien Testament, justement, on trouve des cycles dans le peuple juif où il y a un déclin, un éloignement de Dieu, un oubli de sa loi, et puis il y a un réveil, il y a un retour. Vers Dieu, c'est l'histoire du livre des juges, c'est une histoire cyclique où le peuple s'éloigne et puis Dieu suscite quelqu'un pour ramener le peuple à Dieu. Et si, c'est la même chose dans l'histoire des rois, les rois de Juda, pas beaucoup de réveils dans le roi d'Israël au nord, mais de temps en temps les rois de Juda, certains rois étaient bons. Il y avait un véritable réveil dans le pays, un désir de rétablir le vrai culte, enlever les idolâtries, les idoles. Et donc il y avait un bon roi qui revenait à Dieu et puis tout le peuple refaisait alliance avec Dieu. Et on peut dire heureusement Dieu, il intervient dans l'histoire pour réveiller des gens, pour les ramener à lui. Sinon, la tendance humaine c'est de la foi s'étouffe et puis s'éteint et on s'éloigne de Dieu. Mais surtout Esdras, cette époque d'Esdras et de Néhémie, c'est le réveil par excellence de l'Ancien Testament. Parce qu'après plusieurs générations d'exil, d'éloignement, ils ont perdu leur temple, ils ont perdu leur culte. Eh bien, après toutes ces années, eh bien c'est vraiment le réveil. C'est l'histoire d'Esdras, c'est merveilleux. Un trait basique d'un réveil, c'est que Dieu touche les cœurs, à la fois de ceux qui sont en dehors de son peuple, à la fois de ceux qui font partie de son peuple. Un peu comme nous voyons les deux mentions d'un réveil dans ce texte, c'est Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, c'est un roi païen qui ne connaissait pas vraiment Dieu, qui n'avait pas accès à lui. Et Dieu va réveiller son esprit, quelqu'un d'extérieur, de païen. Et puis, l'autre verset qui parle de Dieu qui réveille, c'est les chefs, les responsables des Juifs. Et donc, c'est ça un trait d'un réveil, c'est que Dieu touche les inconvertis, et ils s'éveillent à la pensée de Dieu. Et puis, Dieu touche aussi les convertis qui ouvrent leurs yeux sur des choses qui leur manquent dans leur foi et qui reviennent à lui. Un autre élément commun dans les réveils, c'est que Dieu travaille dans plusieurs personnes à la fois. Parfois, qui ne s'influencent pas, qui ne se côtoient pas, mais c'est vraiment la volonté de Dieu d'agir à un moment donné. Et donc, il va réveiller l'esprit d'un tel et l'esprit d'un tel. C'est ce qu'on a vu notamment à la réforme du 16e siècle. Il y avait des choses qui se passaient à Paris. Il y avait des choses qui se passaient en Suisse, des choses en Allemagne. Les gens ne se connaissaient pas, ce n'était pas forcément la même décennie même, mais visiblement Dieu faisait quelque chose. Et puis le jour qu'ils ont mis tous leurs efforts ensemble, là, ça a explosé dans toute l'Europe. Donc ici, ce qu'on voit, Dieu travaille différents esprits à la fois. On ne va pas ce matin aller voir dans le livre de Daniel, mais Daniel aussi, à son époque déjà, les 70 ans étaient écoulés et lui, il commence à prier pour ce retour. Donc des prières se mettent en place et puis différentes personnes, même parfois disjointes, commencent à être éveillées par Dieu. Et puis ce qu'ils vont faire ici, c'est on va pouvoir étudier les chapitres suivants, mais c'est un réveil merveilleux. Ils vont remettre en place un vrai culte, quelque chose qui avait été négligé ou qu'ils ne pouvaient même pas faire parce qu'ils étaient en exil, en captivité. Ils vont remettre en place une vraie écoute de la parole, chose qu'ils n'avaient pas fait, ce qui les a conduits en captivité. Ils vont remettre en place une vraie obéissance. Ils vont remettre en place un désir de se repentir promptement. Et donc ce livre est marqué par tous ces repentance, réjouissance, réveil, retour, reconstruction. Bien sûr, ça va être aussi l'occasion de faire face à des défis, à des obstacles, à une résistance de la part des ennemis. Mais ça, c'est normal lors d'un réveil. Et il faut dire que ce réveil d'Esdras va être tellement important qu'il va marquer le peuple juif pour les siècles à venir. À partir de ce réveil, on ne va plus jamais voir l'idolâtrie chez les juifs, en tout cas l'idolâtrie envers les Baals et toute l'armée des cieux. Ça, c'est fini. Alors qu'ils étaient si attirés vers ces choses avant la captivité, maintenant, c'est fini. L'idolâtrie, ça va être plus subtil, où ils vont idolâtrer leur propre religion, leur propre race, plus tard. Mais l'idolâtrie flagrante, superstitieuse envers les Baals et les faux dieux, c'est fini, grâce à ce que Dieu fait ici. Et puis, à partir de ce moment, le peuple juif aura toujours un respect, un attachement pour les Écritures. Avant, ils ne voulaient même pas entendre les prophètes. Ils les rejetaient, ils les mettaient à mort. Mais ils brûlaient les Bibles, ils brûlaient les livres des prophètes. Mais maintenant, à partir d'Esdras, et le ton qui va marquer le peuple, encore aujourd'hui, on connaît le peuple juif comme un peuple qui est attaché aux Écritures, qui les garde en grande estime. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tout, ils saisissent le sens. Nous pensons qu'il faut Jésus-Christ pour comprendre même l'Ancien Testament. Mais à partir d'Esdras, ce que Dieu fait, il y aura un attachement aux Écritures. Et c'est à partir d'Esdras qu'on verra la mise en place des synagogues, des scribes, justement pour étudier, pour mieux connaître la Bible. J'aime bien ce que j'ai lu dans un commentaire qui disait, parlait un peu de l'histoire globale de ce peuple juif, disait « Le peuple juif descend en Égypte en tant que famille, il en sort une nation. Il part en Babylone en tant que nation, il en sort un petit troupeau. » C'est vrai, c'était une toute petite famille qui était partie en Égypte, ils ont sorti des millions, une nation sous la conduite de Moïse. Maintenant, ils vont partir en Babylone, captivité, une nation, mais ils vont sortir un petit troupeau. D'ailleurs, on a lu quelques chiffres, hein, le nombre tout entier, c'était 82 360 personnes. Ça c'est riquiqui par rapport aux millions qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse. Maintenant, c'est... Donc, un réveil, ce n'est pas tant les chiffres, le côté numérique, mais maintenant, il y a un réel désir d'obéir, de suivre Dieu. Alors ça, c'est le réveil d'Esdras, et un peu dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on voit des réveils dans le Nouveau Testament? C'est vrai que l'Église de Jésus-Christ bénéficie, à partir de Pentecôte, de la présence permanente du Saint-Esprit. Et le livre des Actes, heureusement, n'est pas comme le livre des Juges, où il y a constamment déclin et retour, déclin, retour, déclin, retour. Le livre des Actes, c'est un seul réveil qui se poursuit, dans un sens, jusqu'à nos jours. Et on aimerait dire qu'à partir du Nouveau Testament, on ne voit plus cette perte de fidélité d'une génération à l'autre et que tous les chrétiens sont restés tout le temps fidèles à Jésus-Christ. Je connais un pasteur qui a pu dire de son église, voilà, notre église n'a jamais connu de réveil, mais notre église ne s'est jamais endormie non plus. Et connaissant le ministère de cet homme, je le crois, je dis Amen. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines églises, dans le Nouveau Testament, même des églises qui avaient été commencées par l'apôtre Paul, s'étaient refroidies, éloignées, et notamment Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, doit leur parler. Des églises comme à Éphèse ou comme Laodicée, c'était des églises qu'on a déjà connues dans les épîtres de Paul. Mais ils sont refroidis, ils sont loin de Dieu. Et Jésus les invite à revenir, à se repentir, à se réveiller. Et si c'était le cas dans le Nouveau Testament, dans ces églises toutes jeunes, avec un accès si proche aux apôtres, eh bien, combien plus c'est quelque chose qu'on a besoin dans l'histoire de l'Église, que Dieu envoie des réveils. Et heureusement, Dieu a su le faire, a voulu le faire à différentes époques. Parfois, c'est sur le plan national, par des grands réveils, c'est frappant. C'est pas toujours sur le plan national, parfois c'est sur le plan d'une église locale, ou dans un aspect de la vie d'église, où il y a peut-être une lacune ou un oubli, et Dieu réveille les esprits pour qu'ils comprennent, voilà ce que... voilà ce que Dieu nous appelle à être, à faire, peut-être pour la mission. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans notre église ces dernières années pour la mission. Ou c'est pour l'évangélisation, une église se réveille à ce besoin, à ce désir, et plusieurs, ils se motivent entre eux. Maintenant, il faut parler, il faut témoigner de notre foi. Peut-être Dieu réveille une église par rapport à la communion fraternelle qui était un peu fatiguée, et puis un renouveau. Peut-être la prière, ça peut être aussi un groupe au sein de l'église, un groupe de jeunes peut vivre quelque chose de très fort, et puis ça se propage ailleurs dans l'église, ou bien un petit groupe de femmes qui prient fidèlement pendant des années, et puis il y a quelque chose qui éveille et qui dont toute l'église est au bénéfice. Donc des réveils sur le plan national, sur le plan de l'église locale, aussi je pense c'est possible, sur le plan individuel, personnel. Dieu veut régulièrement réveiller notre esprit à sa volonté, à sa pensée. L'apôtre Paul, souvent dans le Nouveau Testament, lance des appels réguliers et être renouvelé dans son esprit, à redécouvrir des choses sur Jésus-Christ, son salut, sa grâce. Et oui, la vie chrétienne a besoin de renouvellement. Donc heureusement, Dieu nous réveille pour ne pas stagner dans la vie chrétienne. C'est un peu comme le corps humain, vous savez, on dit souvent les cellules du corps humain, la plupart des cellules en tout cas sont constamment renouvelées. Vous n'êtes pas la même personne physique, vous l'avez été il y a quelque temps, parce que les cellules se refont à neuf. Et c'est un peu pareil dans notre vie chrétienne. Parfois on a besoin que Dieu nous réveille parce qu'on a connu un temps de grand éloignement, de refroidissement. Un peu comme Israël ici, et là c'est vraiment le grand retour, le fils prodigue qui revient à la maison. Ça c'est un réveil personnel que plusieurs vous avez vécu ou vous avez besoin de vivre. Ou bien sans qu'il y ait un éloignement, on a besoin d'un renouvellement, d'un réveil, je dirais presque quotidien, que Dieu nous réveille à sa personne, qu'on puisse découvrir de nouvelles choses dans sa parole, jour après jour. Je sais que vous priez pour les pasteurs et je vous en remercie. C'est presque une obligation du ministère de vivre ce renouvellement régulier avec Dieu. Qu'on puisse faire des nouvelles découvertes de sa personne ou bien revoir des choses que nous avons apprises et connues mais que nous avons oubliées. Donc oui, des réveils, ça arrive dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sur le plan national, sur le plan personnel, sur le plan d'église, et nous remercions Dieu. Ça fait partie de notre héritage aussi d'évangélique protestant, de regarder dans le passé et dire « Oh là là, c'est merveilleux ce que Dieu a fait, et nous en sommes toujours bénéficiaires aujourd'hui. » Grand nombre de nos cantiques, que ce soit dans le petit recueil ou les ailes de la foi, sont nés dans des périodes de réveil ou de retrouvailles avec Dieu, avec l'évangile. Donc, ça arrive et on est très content que ça arrive, sinon on aura tendance d'oublier Dieu. Maintenant voyons comment ça arrive. Deuxième point, comment ça arrive? Je pense que vous le savez, ça saute aux yeux dans le texte, mais tout simplement j'aimerais insister que ça dit « l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus ». Ou bien l'autre verset, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. C'est le comment, c'est Dieu. L'initiative, c'est Dieu. Autant dans le livre d'Esther, aucune mention de Dieu, autant ici, il est présent depuis le premier verset, c'est lui qui fait tout, c'est son initiative, c'est son action. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le déclenche au moment voulu par lui, au moment décrété par lui, et il entreprend la chose, et quand il entreprend quelque chose, il le fait bien. Et cet esprit réveillé de Cyrus qui lance ce décret de pouvoir rebâtir le temple à Jérusalem, mais ça c'est une des grandes prophéties de l'Ancien Testament, une prophétie frappante que Ésaïe avait annoncée. Si vous voulez voir, c'est Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 28. Alors, Ésaïe fait des prophéties sur... Ésaïe, c'est bien avant la déportation. Et puis, verset 28, 44, 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » 45, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. » C'est le fait que cette prophétie est nominative. C'est presque inouï. Au moins un siècle avant, Ésaïe annonce le nom de celui qui va accomplir, qui va lancer le retour à Jérusalem. Je ne sais pas si vous mesurez la chose. C'est comme si on pouvait nommer le maire de Toulouse en 100 ans, en 120 ans, le maire qui va peut-être nous accorder encore un nouveau bâtiment. Je ne saurais pas vous dire son prénom. Est-ce que vous connaissez le prénom de celui qui sera pasteur de cette église en 100 ans, si Dieu tarde si long à revenir? Mais Ésaïe annonce la chose, c'est très fort, ce serait Cyrus. Et donc ça montre que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui est à l'initiative de cette œuvre. Et d'ailleurs, il avait dit par Ésaïe que le fait que c'est Dieu qui nomme Cyrus, c'est Dieu qui orchestre tout ça, ça fait que Dieu est un Dieu unique. Seul le vrai Dieu, seul le Dieu de l'univers peut faire ça. Et il dit en Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et c'était pour moi, Dieu veut dire, voilà, je suis le seul Dieu unique qui sait faire ça. Et ici, le réveil d'Ezra, c'était la volonté de Dieu. Et ça, c'est une pensée clé à retenir, je pense, quand on pense au réveil, quand on les souhaite pour nous-mêmes peut-être, mais c'est de se dire, c'est le projet de Dieu. Il y a beaucoup d'idées au sujet du réveil qui circulent. Et je pense que l'idée la plus répandue, c'est que c'est quelque chose que l'homme peut faire, peut produire lui-même. Il suffit de réunir les bons éléments, mettre en place les bonnes personnes, ou les bonnes actions, et ça y est, on peut déclencher le réveil. Un peu comme une convention missionnaire, on va organiser un week-end de réveil, on va organiser une semaine de réveil. Cette pensée est née fin 19e siècle, dans les milieux protestants, voilà, on organise une semaine de réveil. Quand j'étais en Haïti ou bien encore en Côte d'Ivoire récemment, on voyait des banderoles sur la route, des banderoles qui disaient du 10 au 15 novembre, semaine de réveil. Ah tiens, comment ils le savent? Mais souvent on a conçu la chose, on prêche le réveil. C'est la phrase notamment dans les milieux charismatiques, on prêche le réveil. On programme qu'il y ait des guérisons, d'autres miracles comme ça, et on se crée un réveil. Mais ce n'est pas vraiment ça dans la Bible. C'est Dieu qui est à l'initiative, il le fait quand et comme il veut. Et même parmi nous, parfois, on se dit que si Dieu n'envoie pas un réveil en France comme on l'aimerait, c'est parce qu'on ne prie pas assez, parce qu'on n'est pas assez assidu aux réunions. parce qu'on ne lit pas assez la Bible et qu'il faudrait faire tout ça et après Dieu va nous récompenser avec un réveil. Mais quand on réfléchit comme ça, encore, on fait dépendre la chose de notre volonté et pas de Dieu. Et c'est pas comme ça que c'est passé pour Esdras. Le peuple s'est pas dit, voilà, on va mettre beaucoup d'énergie à reconstruire le temple et Dieu il va nous voir comme ça et après il va nous envoyer le réveil. C'est pas comme ça qu'ils ont fait. C'était le contraire. Dieu les a réveillés et là ils ont mis beaucoup d'énergie. Même dans notre texte, vous voyez, à plusieurs reprises, on parle des offrandes volontaires. Ou bien des offrandes de libre volonté. Mais c'est ça qui est beau. Quand Dieu réveille nos esprits, la volonté s'engage. La volonté s'engage librement. Il y a un côté très volontaire parce que Dieu nous a éveillés. Comme dit le Nouveau Testament, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est vraiment ce qu'il a fait pour cette génération d'Esdras. Il a produit en eux le vouloir et le faire, de revenir à lui. Et notamment un rêver, quand on parle de rêver, c'est quand Dieu fait ce travail dans plusieurs personnes à la fois, dans un groupe de personnes. Et bien sûr, les uns motivent les autres, mais c'est Dieu à la base qui fait tout ça. Donc le comment du réveil, c'est une œuvre divine. Et puis, nous avançons, nous allons voir ce qui arrive au fond dans un réveil. Parce qu'on a un bon cas ici, un véritable cas de réveil ici. Qu'est-ce qui arrive dans un réveil? C'est quoi un réveil? Et on a souvent défini le réveil comme un temps de miracle extraordinaire, de guérison, phénomène bizarre, une recrudescence de manifestations surnaturelles. On va dire qu'il y a beaucoup de guérison, beaucoup de parler en langue, beaucoup de toutes ces choses. C'est ça un réveil, selon beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas ce que nous voyons ici. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans un réveil? Bien, si vous regardez bien, ce qui est frappant dans ce récit, c'est que le peuple, en fait, ils vont revivre l'Exode, mais sur une autre échelle. Vous connaissez l'histoire de l'Exode avec Moïse, où Dieu sort son peuple d'Égypte pour les conduire dans le désert, pour qu'ils apprennent sa loi, qu'ils fassent un vrai culte envers l'Éternel. Eh bien, ici, ils vont revivre un Exode. Ça ne va être pas un Exode d'Égypte, mais ça va être un Exode de Babylone. Il y a plusieurs détails dans le texte qui font un lien clair avec l'exode de Moïse et puis ce que vivent Esdras et les autres. Notamment verset 4. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Et puis verset 6. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent et de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses. Est-ce que ça vous fait penser à un autre moment où les voisins des peuples juifs leur ont donné de l'or et de l'argent, des choses précieuses, ces choses avec lesquelles ils vont ensuite construire le lieu de culte? Et oui, c'est à l'époque de l'Égypte. Moïse avait dit au peuple, vous allez dépouiller les Égyptiens, mais ça va être, les Égyptiens vont vous donner volontairement, et c'est, on reprend exactement la même phrase, l'or, l'argent, les effets, les choses précieuses. Et quand le peuple est sorti d'Égypte, ils avaient toutes ces richesses, et avec ces richesses, ils ont construit le tabernacle. Et ici, ils vont revivre la même chose. Dieu va disposer le cœur de leurs voisins, ils vont donner de l'or, les gens, des effets, et le peuple va les utiliser pour construire la maison de l'Éternel. Et ils vont quitter ce pays d'exil, on va dire de captivité, presque d'esclavage, et ils vont aller où ils peuvent apprendre la loi de Dieu et construire un temple pour lui. Et si vous voulez voir vraiment le rapport clair, c'est en Jérémie chapitre 16, verset 14. Regardez ce que Jérémie annonce encore, c'est une prophétie. Jérémie 16, 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël », mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, du nord ». Babylone, c'est au nord. Égypte, c'est au sud. Babylone, c'est au nord. « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où ils avaient chassé. Je les ramènerai dans leur pays » que j'avais donné à leur père. Vous voyez le rapport, il y avait la sortie d'Égypte, mais il dit, voici, on ne parlera plus de Dieu qui a sorti son peuple d'Égypte, on va parler du Dieu qui a sorti son peuple des pays du Nord. Et ce que Dieu a fait avec l'histoire d'Esdras et Néhémie, probablement il y a une portée prophétique qui reste à être accomplie, où Dieu commence à rassembler son peuple aussi. Mais ceux qui vont vivre cette génération d'Esdras et de Néhémie, ils vont revivre un exode, ils vont revivre cette délivrance de Dieu, ils vont revivre le salut de Dieu qui les sort et qui les sauve. C'est un re-exode. Et je pense à ce peuple, ils devaient tous connaître l'histoire de Moïse, un peu comme vous, le prince d'Égypte, tout le monde devait le connaître, belle histoire, mais cette fois-ci, ils vont l'expérimenter pour eux-mêmes, ce salut, cette délivrance, cette protection en route, cette rencontre avec Dieu dans un vrai culte. Ils connaissaient l'histoire de Moïse, mais là, ils vont le revivre eux-mêmes, personnellement. Et je dirais que c'est ça un réveil. C'est un retour, c'est revivre la délivrance de Dieu, redécouvrir l'Évangile. Et les grands réveils, c'est ça. Il y a une redécouverte du salut de Dieu, une redécouverte du message de la grâce. On redécouvre que c'est lui qui nous sauve, qui nous gracie malgré nous-mêmes, que ce n'est pas à nous de réussir notre salut, mais c'est Jésus-Christ qui l'a réussi pour nous, qui l'a mérité à notre place. Et c'est un cadeau, c'est gratuit, c'est un don. Écoutez cette prière de Daniel. À peu près au même moment, mais on voit que Dieu réveille son peuple à revivre, redécouvrir la grâce. Daniel prie en chapitre 9. « Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Ce n'est pas à cause de nos justices que nous te prions, c'est à cause de ta grande compassion. » Et il y avait cette conscience collective que Dieu était un Dieu de grâce, et qui pouvaient les ramener, que ce n'était pas à cause de leur justice. Au contraire, ils avaient tout raté, mais ils étaient prêts à se reposer dans la grâce, la compassion de Dieu. Ça, c'est un réveil. C'est de revivre cette bonne nouvelle, revivre cette sortie, revivre l'Exode, revivre l'Évangile. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des églises évangéliques qui ont besoin de redécouvrir cette vérité, que la vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Il y a des personnes qui ont grandi toute leur vie dans un cadre chrétien, dans une famille chrétienne, qui ont besoin de ressaisir cette grâce. Certes, ils connaissent l'histoire de la croix, comme ils ont pu connaître l'histoire de Moïse, mais il y a quelque chose où il faut le vivre soi-même, ou le revivre, c'est ça un réveil. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est refroidi, qu'est-ce qu'il a besoin de vivre lui ? Est-ce qu'il a besoin de vivre une séance de parler en langue? Est-ce qu'il a besoin de vivre un rêve prémonitoire? Non, il a besoin de revivre ce qu'il a vécu lors de sa première conversion. Il a besoin de demander pardon à Dieu et puis revoir la croix, ressaisir la grâce. Il a besoin de redécouvrir que Dieu est encore prêt à le gracier, à l'aimer, à l'accueillir par les mérites de Jésus-Christ. Je sais que moi-même, tous les progrès que j'ai pu faire dans la vie chrétienne, même dans mon ministère pastoral, c'est quand j'ai mieux compris l'Évangile. Ou que un aspect du message de la croix a pénétré encore plus loin dans mon cœur. C'est ça un réveil. Et on a bien vu ça à la Réforme, notamment lors de la Réforme. C'était, on va dire, le plus grand réveil en Europe. Il y avait des gens très religieux, des professeurs de théologie qui connaissait l'épître aux Romains, par exemple, Luther, enseignait l'épître aux Romains. Mais un jour, il a découvert, redécouvert la grâce. Et c'est ça qui a lancé ce réveil. Alors, c'est ça un réveil, redécouvrir l'évangile de grâce. Et quand Dieu le fait dans plusieurs cœurs, quand il le fait dans peut-être plusieurs églises, là on parle d'un réveil conséquent. Et c'est ce qui se passe. Parfois, il y a des générations, il y a une génération qui prêche fidèlement l'évangile, puis les enfants, ils connaissent l'histoire, mais c'est moins vivant pour eux. Et puis la génération suivante, l'oublier, c'est même pas vraiment l'expliquer. Alors Dieu réveille la génération suivante, il redécouvre l'évangile. Si on revient à Esdras, pour terminer, on voit dans le chapitre 2 qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont de la race d'Israël. Vous avez vu ça? Verset 59. Il y a ceux qui ne pouvaient pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. C'est-à-dire, à ce moment, c'était très important. Ils étaient en train de reconstruire le peuple, reconstruire l'identité d'Israël, et il fallait pouvoir prouver qu'on était vraiment d'Israël. C'est comme en France. Si on va appeler ça un camembert, il faut être sûr que ça vient de la région de Camembert. Si on va appeler ça un Lévite, il faut être sûr que ça vient de Lévi. Si on va appeler ça un Juif, il faut être sûr que ça vient d'une généalogie juive. Mais pour nous aussi, si on va appeler ça un chrétien, il faut être sûr que ça vient de Christ, que ça vient de la grâce, que ça vient de la croix. Et ces personnes, ils ne pouvaient pas le prouver. Donc, on va les un peu mettre à part pour qu'on puisse vérifier et qu'ils puissent être pleinement intégrés dans le peuple de Dieu. Et j'ai pensé à ça parce que quand Dieu est à l'œuvre parmi un peuple, parmi une église, et qui remet en évidence l'évangile, la grâce, et que plusieurs s'engagent, bien, c'est justement souvent l'occasion de vérifier soi-même, de s'interroger. Si vous deviez prouver que vous êtes chrétien, quelle évidence vous mettez en avant? Ah oui, je connais l'histoire. Ah oui, j'ai lu la Bible. Et non. Mais la preuve, c'est ici, ce n'est pas une affaire de ADN ou de généalogie. La preuve, c'est la foi en Christ, c'est la repentance, c'est l'amour pour le Seigneur. C'est ça notre preuve. Alors, voilà, on est devant une année avec des projets. J'espère que Dieu agit puissamment parmi nous pour bâtir notre Église, pour nous garder près de lui, peut-être pour nous réveiller sur des nouveaux aspects de l'Évangile qu'on n'a pas encore saisi ou compris. Et c'est l'occasion pour nous tous de s'engager avec lui. Si ce n'est pas un retour vers Dieu, peut-être il faut vivre la chose pour la première fois et venir à Dieu. Mais ça revient au même, que ce soit un retour de quelqu'un qui est refroidi ou bien une personne qui se rend compte qu'il n'est jamais venu. C'est un peu la même démarche, saisir la main de Christ, comprendre qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il nous aime et qu'il va nous porter jour après jour pour nous garder près de lui.